On parle beaucoup de la condition des personnes handicapées lorsque c'est le jour, lorsqu'il y a une manifestation spécifique à cet égard, et le reste du temps, on l'oublie. Et pourtant, tout ce qui avait été promis aux personnes handicapées, notamment en termes d'accessibilité, n'a pas été fait. Du coup, leur vie demeure bien souvent une course d'épreuves, et c'est la raison pour laquelle il est essentiel de faire le point, de voir que les choses n'évoluent pas suffisamment vite. On en parle avec vos questions et vos témoignages au 0145 24 7000 et sur notre compte Twitter Service Public FI. Et moi aussi, ce matin, je voulais vous parler de Waterloo, mais d'un Waterloo écologique, d'un Waterloo humain, celui du pesticide nommé Roundup. C'est d'ailleurs étrange, cette histoire de Roundup. Ségolène Royal, ministre de l'écologie, avait pour projet d'interdire le Nutella et de proposer une vente restreinte du Roundup, alors que c'est à peu près l'inverse qu'il aurait fallu faire. Bah ouais, il aurait fallu faire l'inverse, parce que le Nutella, d'après la plupart des études, n'est pas nocif pour les plantes. Bon, pour les hommes, c'est évidemment une autre histoire. Le Roundup, surtout, c'est une autre histoire, car figurez-vous que les effets cancérigènes du Roundup sont connus depuis 1962. Oui, 1962. De Gaulle était encore à l'Élysée, l'Algérie venait de conquérir son indépendance. Cette date de 1962 donne le vertige. Alors bien sûr, on dit que les choses ont évolué par rapport à l'amiante. Quel rapport entre l'amiante et le Roundup ? Eh bien, les effets nocifs de l'amiante ont été connus en 1890 et ce matériau a été interdit en 1980, soit 90 ans plus tard. Pour le Roundup, les choses pourraient bien être plus rapides. On sait qu'il s'agit d'un produit dangereux depuis 1962 et 53 ans après cette date, on ébauche l'esquisse de quelque chose qui pourrait ressembler à une interdiction future. Il risque donc d'y avoir une décision prise sur le Roundup avant 90 ans. Mais au bout du compte, comment ne pas être sidéré une nouvelle fois devant ce Waterloo moral ? À chaque nouvelle catastrophe sanitaire, de beaux discours se font jour sur le thème du « plus jamais ça ». Après l'amiante, on a expliqué que les lobbies seraient combattus, qu'on n'exposerait plus les individus à un risque quelconque au profit d'un secteur, d'une industrie. Et aujourd'hui, voilà le Roundup, un produit utilisé depuis des décennies dans un consensus relatif sans débat ni polémique. D'ailleurs, au fait, vous savez ce que ça veut dire Roundup en anglais ? Rassembler. Rassembler pour un produit mortel, comme quoi un pesticide peut être à la fois chimique et cynique.
France Inter, service public, Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, dans Service Public, on parle du regard que la société porte sur les personnes handicapées, de la condition des personnes handicapées. On en parle en compagnie de Mireille Malot. Bonjour.
Bonjour.
Mireille Malot, vous êtes présidente de l'association Hippocampe. Vous organisez le festival Regard Croisé. C'est la 7e édition, les 1er et 2 octobre à Nîmes prochain. Que fait, en quoi consiste l'association Hippocampe, à quoi sert-elle et que vise-t-elle ?
Alors, on essaye de développer des actions et des manifestations artistiques en faveur des personnes en situation de handicap. À Nîmes, on a créé un festival, donc c'est la 7e année. L'idée est de donner la parole aux personnes handicapées, parce que ça, c'est très, très important. Parce que là aussi, on pourrait parler de Waterloo, quelque part, pour rejoindre le propos que vous aviez juste avant. On a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à démontrer. Et en leur donnant la parole et en leur demandant de nous réaliser des courts-métrages de 6 minutes, ils nous expriment des tas de choses sur leur vie au travail ou sur leur passion dans la catégorie autre regard. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on donne aussi la parole aux entreprises avec des films de communication d'entreprise afin de savoir comment les entreprises les regardent aussi dans le monde du travail.
Et c'est effectivement essentiel car le premier droit de l'être humain, on finit par l'oublier hélas en cette période de chômage, c'est le droit de travailler. Charles Gardon, votre travail à vous, c'est d'être anthropologue. Vous êtes professeur à l'université Lumière Lyon 2 et vous avez notamment publié La société inclusive, parlons-en, il n'y a pas de vie minuscule. Vous nous expliquez quel regard un anthropologue peut poser sur la condition des personnes handicapées. Puis enfin, Charlotte de Villemont Villemorin, bonjour.
Bonjour.
Charlotte de Villemorin, vous avez publié un témoignage qui est un témoignage à la fois drôle et poignant. Le titre évoque le contenu du livre. Le titre de votre ouvrage, Charlotte de Villemorin, c'est « Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque ». Vous êtes une jeune femme. Vous racontez dans ce livre notamment votre entrée dans la vie professionnelle, dans une société de publicité avec à la fois le regard des autres, qui est un regard sympathique, c'est en tout cas comme ça que j'ai lu votre livre. Les gens sont bien souvent attentifs, ils sont parfois compatissants, peut-être condescendants, et la revendication qui parcourt ce livre, c'est tout simplement que vous, personne en situation de handicap, en fauteuil, vous soyez considéré comme une personne valide. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première immersion dans un milieu professionnel, Charlotte ?
Ce que j'en ai retenu, c'est que on peut être tout à fait capable de travailler et d'avoir de vraies compétences, d'être reconnu pour ça, malgré un handicap. Et souvent, dans le monde de l'entreprise, les gens font plutôt preuve de bonne volonté, de bienveillance. Seulement, on a un peu tendance à penser qu'une personne, dans mon cas avec un handicap physique, le handicap physique peut être amoindrir quelques capacités intellectuelles, ce qui n'est pas du tout le cas. Du coup, c'est vrai que souvent, les gens ont tendance à m'infantiliser, à me parler très fort, comme si je ne comprenais pas très bien. Et surtout, ce qui m'a vraiment frappée dans cette première expérience professionnelle, c'était en fait le fait que les entreprises, les ressources humaines, etc., étaient complètement désemparées quand il s'agissait d'embaucher quelqu'un avec une situation de handicap, parce qu'elles ne savaient pas, elles ne connaissaient pas leurs droits. Et du coup, c'était très compliqué sur plein de niveaux, financiers, transport, etc. Et du coup, ça a malheureusement mis ma situation en péril, puisque je n'avais plus les moyens de me déplacer. On en reparlera sûrement plus tard.
On va reparler des conditions matérielles, d'autant que dans votre ouvrage, vous évoquez des problèmes matériels qui paraissent, pour les personnes valides, des non-problèmes. Et vous racontez à quel point ce peut être une épreuve. Vous racontez par exemple à quel point un bouton d'ascenseur, ça peut être salaud.
C'est vrai, on se dit l'ascenseur c'est super, ça permet aux personnes en fauteuil de monter les étages, ce qui est vrai. Il vaut mieux un ascenseur que pas d'ascenseur. Mais voilà, moi dans ma situation, j'ai très peu de mobilité des bras. Je peux pas du tout appuyer sur un ascenseur, sur un bouton d'ascenseur pour pouvoir me rendre à l'étage où j'ai besoin d'aller. Et c'est vrai que moi j'ai fait le choix dans l'entreprise de ne pas demander constamment de l'aide à mes collègues. Je voulais pouvoir être autonome, etc., quitte en fait à ce que ça se retourne un peu contre moi, parce que du coup, quand il fallait que je me déplace d'un étage à l'autre, je rentrais dans l'ascenseur et je me laissais porter au fil des étages en me disant « je vais bien finir par atterrir quelque part ». Et donc voilà, c'est tous ces petits détails en fait qui font que d'un coup, on est en situation d'incapacité temporaire. Et pour moi en fait, c'est ça le handicap, c'est vraiment ce petit moment qui n'est pas du tout conditionné par l'absolu, mais vraiment par l'environnement.
Et qui ne constituent pas effectivement des petits problèmes qui rendent la vie
un peu
tout simplement
compliquée.
Bon, vous êtes gentil, moi je dirais quasiment impossible d'après ce que vous racontez. Et du coup, votre livre est un appel pour que les personnes valides, toutes les personnes, songent mieux à l'environnement de tous, notamment dans le monde de l'entreprise. On continue à évoquer cette question tout de suite après la grande Sophie Maria Iudina, un disque choisi par Olivier Bétard et Thierry Dupin.
Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Iudina. Je n'ai pas de revolver au fond de mon sac, pas de clé de phare. Et pourtant, j'entends les marteaux si souvent, là sur le piano. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas. Pas de symphonie au bout de mes doigts. Et j'entends. suis pas Maria Iudina.
Service public sur France Inter, l'évolution du regard de la société sur le handicap ou l'absence d'évolution. En tout cas, on en parle ce matin en compagnie de Mireille Malot qui représente l'association Hippocampe, Charlotte de Villemorin qui publie un témoignage « Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque » et qui aujourd'hui a fondé son entreprise, l'entreprise Willys. Elle le raconte d'ailleurs dans un blog qui s'intitule « Welcome », c'est un jeu de mots entre W-H-E-E-L, Will, une roue en anglais, et « Welcome ». Et puis enfin, l'anthropologue Charles Gardou. Charles Gardou qui a publié notamment La société inclusive, Parlons-en aux éditions RS. Et puis d'autres livres également aux éditions RS, notamment Handicap, une encyclopédie des savoirs des obscurantismes. À de nouvelles lumières, Charles Gardou. On parle du regard que la société porte et pose sur les personnes handicapées. Celui-ci a-t-il évolué ?
Alors, on ne peut pas méconnaître les progrès qui ont été faits dans certains secteurs. Il ne peut pas être passé sous silence. Toutefois, on se rend compte que notre société, si elle a évolué, laisse encore des zones d'ombre. Et c'est ainsi que le Conseil de l'Europe vient d'avertir notre pays en matière de respect des droits, quelquefois les plus élémentaires, pour les personnes en situation de handicap.
Lesquels, par exemple ?
Du côté de l'éducation, il y a encore, dit le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, 20 000 enfants sans solution éducative. Il y a encore des difficultés d'accès aux soins. 31% de lieux médicaux ou paramédicaux restent inaccessibles aux personnes en situation de handicap. Je cite ici le rapport Jacob. Dans le domaine d'une place pour chacun, on est encore loin du compte. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aujourd'hui de l'ordre de 6 000 personnes atteintes notamment d'autisme qui sont obligées de s'exiler en Belgique, malgré le nombre de places régulièrement créées. Et on peut penser encore à d'autres droits qui ne sont pas respectés. Si on part d'une société inclusive, comme j'ai coutume de le faire, cela sous-entend une société accessible, c'est-à-dire une société qui lutte contre toutes les formes d'exclusivité, que ce soit dans le champ des espaces citoyens ou de l'accès au savoir, à l'art ou à la culture.
Charles Gardou, on a l'impression, lorsqu'on voyage un peu, que la France est particulièrement mal placée. Si on juge par exemple les sociétés anglo-saxonnes, où beaucoup de choses sont faites. Charlotte de Villemorin, dans votre livre, vous racontez quelque chose d'évident pour qui a pris le métro. On ne peut tout simplement pas prendre le métro parisien en fauteuil roulant. Les transports ne sont pas du tout adaptés.
Pas du tout. C'est vrai que l'accessibilité Pour moi, ça commence par les transports et ne pas avoir accès aux transports, c'est ne pas être mobile, ne pas pouvoir sortir de chez soi. Ne pas pouvoir sortir de chez soi, c'est ne pas être libre, en fait.
C'est-à-dire que concrètement, pour que les gens, pour que nous comprenions en quoi consiste votre quotidien, sortir de chez vous, cela signifie prendre un chauffeur pour vous.
C'est ça. En fait, on a un pays avec une situation un peu ambiguë, qui est assez généreuse sur certains domaines, notamment il y a un système de compensation financière qui existe. Le handicap ne devrait pas coûter en France. Et c'est vrai que moi, typiquement, je suis en fauteuil roulant. Le métro, c'est impossible. Le bus, c'est très compliqué. Du coup, quand j'étais élève et puis plus tard étudiante, pour pouvoir aller à l'école et faire mes études, j'avais la possibilité d'avoir un chauffeur qui venait me chercher d'une entreprise spécialisée matin et soir pour m'accompagner de chez moi à mon lieu d'études.
Combien ça coûte temporaire. Qui paye, Charlotte?
Alors en fait, c'est le STIF qui paye à Paris. Ils ont fait le calcul que c'était moins coûteux de mettre en place ce système parallèle pour pouvoir accompagner les personnes handicapées qui en avaient besoin, plutôt que de faire les travaux d'accessibilité nécessaires. C'est un calcul qui est risqué parce que il n'existe que temporairement. Typiquement, quand on est élève, quand on est étudiant, on peut être pris en charge financièrement. Ce sont des transports qui coûtent très cher. Il n'y a pas vraiment de mise en concurrence sur le marché. Et le jour où je suis passée de étudiante à salariée, je me suis rendu compte que plus de prise en charge n'était possible. C'était pour ma poche, pour la poche de l'entreprise. Et ça pouvait coûter plus de 4000 euros par mois. On parlait de 250 euros par jour pour faire une distance ridicule de même pas 4 kilomètres. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas vu venir.
Pour que les auditeurs comprennent bien, Charlotte de Villemorin, ça signifie que lorsqu'on veut vous embaucher, il faut vous payer un salaire, ça c'est comme ça qu'on fait généralement, plus 4000 ou 4500 euros pour uniquement les frais de transport, ce qui évidemment est une somme.
Est une somme vraiment colossale, voilà. Enfin, moi, en fait, si c'était pour ma poche, ça me coûtait 4 salaires juste de me déplacer pour aller travailler. Donc évidemment, beaucoup de personnes renoncent à travailler parce qu'elles n'ont pas les moyens de se déplacer et d'aller travailler. Seulement, il y a des aides qui existent, notamment au niveau de l'AGFIP, qui travaille avec les entreprises pour justement faciliter l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Mais ça, les entreprises ne le savent pas. Elles connaissent pas leurs droits. Et du coup, elles ont peur et elles font marche arrière.
Charles Gardou, lorsqu'on entend ce témoignage, le témoignage de Charlotte de Villemorin, on se demande pourquoi la France est à ce point à la remorque.
Alors on se dit peut-être de manière globale que notre société entretient des ambiguïtés. Je crois qu'on vit un temps aussi lumineux qu'obscur. En fait, c'est un temps qui prône l'égalité. L'égalité des droits, des chances, la participation, mais qui en même temps hiérarchise implicitement les vies, jaugeant de leur productivité, de leur rentabilité et de ce qu'elles coûtent et rapportent. C'est un temps également ambigu parce que c'est un temps qui affirme respecter les fragilités dont le handicap fait partie, mais en même temps c'est un temps qui les marginalise et qui se perd dans des idéaux de puissance, de force et de maîtrise de tout. Je pourrais encore prendre un exemple de ces ambiguïtés. C'est un temps qui se veut également indépendant d'esprit, même temps très assujetti à des normes souveraines, s'agissant du corps, s'agissant de l'esprit, s'agissant de l'esthétique, s'agissant de l'économique. Bref, c'est un temps qui prône l'accompagnement des plus vulnérables. Mais en même temps, Charlotte vient de le dire, les plus vulnérables se sentent parfois délaissés, incompris. Alors effectivement, l'optimisme, à partir de ça, est soumis à rude épreuve par ses ambiguïtés, et puis les tourments qu'elle crée au quotidien, des exemples viennent d'être donnés. Je pense qu'il nous faut sortir de ces ambiguïtés-là. Et la principale ambiguïté, c'est que nous avons un discours qui a du mal à être traduit par des actes. C'est-à-dire, il faut du volontarisme politique, c'est-à-dire dans la vie de la cité.
Nous avons une auditrice au standard, Véronique. Bonjour Véronique.
Oui, bonjour Guillaume et merci. Merci pour cette émission et l'émission que vous aviez fait sur l'autisme. Vous êtes l'un des rares à vous intéresser au handicap. Moi, voilà, j'ai une fille handicapée mentale qui va avoir 15 ans et en fait, j'ai été très très agressive quand on l'a regardée de travers, ce qui arrive encore très souvent, pendant une bonne dizaine d'années. C'est-à-dire qu'on l'a regardée, vous avez envie de meurtre. Et puis un jour, j'ai croisé un monsieur qui était un grand brûlé. Et en fait, quand on croise un grand brûlé, c'est, on imagine les souffrances morales et physiques. Et je me suis trouvée complètement dépourvue en le regardant, parce que je crois que le regard est attiré par la différence, quelle qu'elle soit. Un grand brûlé, un handicapé, quelqu'un qui a des yeux trop bleus, quelqu'un qui est trop beau, une très jolie fille. Et en fait, j'ai regardé ce monsieur et je savais plus quoi faire. Et je lui ai fait un grand sourire. Et en fait, il m'a répondu. Il m'a fait un magnifique sourire. Et je crois qu'il attendait que ça. Finalement, ça m'a fait changer l'attitude que j'avais par rapport au regard qui était jeté sur ma fille, et je me suis mise à être plus pédagogue, en fait. Mm-hmm. Et quand on l'a regardée, à dire « oui, elle est handicapée, elle aurait peut-être préféré être autrement, mais voilà. » Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ça qu'il fallait faire. Que c'était que d'être pédagogue et que d'essayer de positiver, c'était réussir à enseigner aux gens et à montrer aux gens. Et en fait, moi j'habite une petite ville, j'habite près de Vernon, et c'est vrai que je l'habille bien, je la coiffe bien, je mets des petites barrettes assorties au truc. Et je pense que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice, comme Charlotte qui avec sa société permet sans doute à plein de gens d'aller travailler alors qu'ils pourraient pas autrement, comme elle le signalait. Je crois, voilà, chacun doit faire ce qu'il peut et d'être positif. Je pense que c'est difficile, c'est long, mais c'est constructif.
Merci Véronique pour ce témoignage. Mireille Malo, vous qui représentez ici l'association Hippocampe, que pensez-vous de cette remarque de Véronique ?
Je trouve qu'elle est pertinente, et c'est vrai que on est plusieurs à être parents d'enfants handicapés. Hein, on est concerné en général quand on se lance dans la vie associative comme ce que je fais. On a eu beaucoup de regards difficiles, je dirais, il y a un certain nombre d'années. Aujourd'hui, les regards sont moins violents. Moi, j'ai une fille lourdement handicapée qui a 33 ans, qui est polyhandicapée. Et c'est vrai que je la sors, on l'habille bien, on essaie de l'habiller exactement comme les autres jeunes de son âge. Et on comprend mieux. Alors, souvent, les gens ont peur. Souvent, les gens viennent vers moi et me disent « Mais elle parle pas, comment vous faites pour qu'elle ait envie de boire, pour qu'elle mange, pour les gestes quotidiens de la vie, comment on fait ?» Bon, on développe la communication non verbale à travers le regard, et parce qu'on l'aime, on la comprend.
Charlotte de Villemorin, dans votre livre, vous racontez une histoire qui est une histoire contemporaine, puisque vous êtes une jeune femme, et vous racontez malgré tout des choses inouïes. Vous racontez une scène lorsque vous étiez à la petite école où on a expliqué qu'il y avait 27 enfants dans la classe, 27 enfants et Charlotte. On se demande comment on fait pour dire de telles énormités aujourd'hui.
Alors ça, c'était une petite fille qui avait mon âge, hein, on avait peut-être 7 ans, qui avait dit ça. En fait, ce qui m'a un peu frappée, c'est que quand on est petit enfant, la différence, on la remarque pas vraiment. On fait avec, on n'est pas dérangé par la différence, ce qui vient avec un regard plus adulte. Et pour moi, cette phrase a été très révélatrice, justement, du passage avec un regard un peu plus adulte, un regard un peu plus commun. Mais c'est vrai que c'est très difficile d'entendre quelque chose comme ça quand ça nous concerne. Moi, ça m'a énormément blessée. En même temps, on peut pas nier la différence. Et c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans le témoignage de l'auditrice qu'on vient d'avoir en ligne. C'est que moi, évidemment, dans la rue, on me remarque beaucoup. Souvent, les gens sont un peu mal à l'aise, etc. Les enfants me montrent du doigt en disant « Ah, regarde, pourquoi elle a une voiture ?» etc. C'est vrai que j'aimerais qu'on ne le voit pas, mais en même temps, je peux pas faire comme si ça n'existait pas. Ça fait avec, et moi, faut faire avec. Moi, je pars du principe que de toute façon, je ne peux rien faire. C'est comme ça, ce ne sera pas autrement, et que on a tout intérêt à l'accepter pour aller de l'avant et bien vivre, en fait, son handicap.
Charles Gardou, qu'en pensez-vous ? Que pensez-vous, justement, de ces remarques, de cette difficile question, puisque à la fois, il y a une différence, elle n'est pas niable, elle est physiquement inscrite dans le rapport à l'espace, à une porte, à un trottoir qui peut devenir une muraille infranchissable, et d'un autre côté, cette différence ne doit pas s'accompagner, évidemment, d'un regard condescendant.
Ce qui est exprimé là, c'est la propension qu'ont les sociétés, les cultures, et ça c'est universel, à s'imaginer deux humanités. L'humanité forte et une humanité faible. Une humanité à l'endroit une humanité à l'envers, une humanité insignifiante et une humanité éminente. Et je crois qu'il y a là quelque chose de l'ordre d'une perversion de la pensée et aussi de la relation. Il n'y a qu'une humanité dépositaire d'une condition universelle dans laquelle niche, par naissance même, par condition même, la fragilité. Et parmi les fragilités intellectuelles, physiques, psychiques, affectives, j'en passe et des meilleures, il y en a une qui prend pour nom handicap. Et je crois qu'il y a donc une vraie direction d'action qui devrait nous amener à sortir le handicap de l'excessive particularisation dans laquelle il est tenu. Faute de quoi, nous le coupons d'une pensée universelle. Et alors, nous portons des regards sur quelque chose qui serait extraordinaire. Or, le handicap est une dimension, j'allais dire, ordinaire de nos vies humaines, marquée fondamentalement par la vulnérabilité.
On écoute Lily Allen Smile et tout de suite après, on continue à évoquer la situation des personnes handicapées en France. Service public sur France Inter, on parle de la condition des personnes handicapées, de leurs conditions lorsqu'elles souhaitent par exemple travailler. Bah oui, on l'oublie, et c'est un droit de travailler, même si hélas pour les personnes valides comme pour les personnes handicapées aujourd'hui, ce peut être d'abord et surtout un problème. On en parle en compagnie de l'anthropologue Charles Gardou qui a publié un grand nombre d'ouvrages aux éditions ERES, notamment Fragments sur le handicap et la vulnérabilité. Charlotte de Villemorin qui raconte son expérience de personne handicapée dans un livre drôle, touchant et dérangeant, Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque, et enfin Mireille Malot de l'association Hippocampe. Et enfin, Lénora Krief qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Lénora.
Bonjour
Vous
Guillaume.
Êtes rendue sur un forum pour l'emploi dédié aux personnes handicapées, un forum organisé à Lille.
En effet, pour la 9e année consécutive, l'association Emploi et Handicap Grand Lille et Cap Emploi organisent un forum de rencontre pour les chômeurs en situation de handicap. Dans un salon à Marc-en-Barreuil, en région Nord-Pas-de-Calais, plus d'une cinquantaine d'entreprises sont venues ce mardi 16 juin proposer différents postes à pourvoir. En matière d'emploi, le taux de chômage des personnes en situation de handicap est pratiquement le double de celui de l'ensemble de la population française, et ces difficultés d'intégration se font ressentir en échangeant avec les différents candidats présents ce jour-là.
Ouais, c'est très dur. C'est très dur parce que, déjà de un, c'est très dur parce qu'il faut chercher tout travail. Ils disent, ouais, vous avez fait quoi comme métier? Je leur fais montrer mon CV. Ils me disent, ouais, vous savez écrire? Je fais, écoutez, je sais écrire, mais je fais des fautes. J'arrive pas à bien écrire. Donc voilà, c'est ça mon handicap. Je fais, on va peut-être vous rappeler ou pas. Ça fait un moment que je suis au chômage.
Vous faites la queue pour quel entretien ?
Là, c'est pour l'université de Lille 1, mais moi, c'est plus dans l'imprimerie, parce que j'ai fait mes études là-dedans. Donc,
Ça fait combien de temps que vous cherchez ?
3 ans.
3 ans. Et jusque-là, vous n'avez pas trouvé ?
J'ai eu des petites expériences, mais il y en a qui se sont bien passées, d'autres moins bien. Donc.
Pour quelles raisons ?
Par exemple, il y a une entreprise qui ne jouait pas du tout le jeu. Et.
C'est-à-dire ?
Bah, en fait, c'était une entreprise adaptée. Et c'était juste en façade. C'était une entreprise où le patron exploitait vraiment ses employés, mais on se faisait engueuler tous les jours, mais on n'arrivait pas à avancer.
Quel est votre handicap ?
Moi, c'est juste que j'ai une légère lenteur motrice de ma main gauche, mais c'est tout.
Et vous avez l'impression que ça a été un frein pour la recherche d'emploi ?
Par moment, oui, par moment, non. Parce que là, par exemple, mon stage qui va débuter, c'est... Là, dans une entreprise adaptée. Et là, j'ai pu vraiment leur expliquer mon cas et ils m'ont très bien compris. Et c'est ça qui est intéressant.
Durant près de 4 heures, les entretiens s'enchaînent dans ce forum et les demandeurs d'emploi attendent patiemment leur tour. Ancien opérateur sur machine à commande numérique, à 40 ans, Bastien a choisi de se reconvertir dans le secteur de l'informatique. Diplômé d'un bac professionnel, il vient candidater pour un poste en alternance de technicien de maintenance.
Mon handicap, c'est une maladie orpheline qui ont rendu mes artères très fragiles et très frêles. Et j'ai déjà fait pas mal de pépins de santé au niveau cardiovasculaire. J'ai fait un AVC, un AIT et deux infarctus.
Et vous pensez que ça représente un frein pour les entreprises ?
Tout dépend de l'emploi. Il est vrai que j'ai fait quelques stages en entreprise où il fallait malheureusement porter du matériel électrodomestique et multimédia. Et par moment, c'était assez difficile.
Et ça, vous en faisiez part à l'employeur ?
Oui. Alors après, il y en a qui en prennent compte et il y en a qui en prennent pas toujours compte.
Vous en avez fait plusieurs, des forums comme celui-ci ?
Oh, oui, beaucoup.
Vous êtes sorti bredouille ?
Oui, malheureusement, à chaque fois.
Bonjour, monsieur. Alors, je vais effectivement prendre un CV. Vous êtes diplômé du bac pro SEN en 2014. Depuis votre stage, en mars 2014, vous n'avez pas travaillé ?
Non.
Vous êtes en recherche d'emploi depuis... un an et quelques mois.
Dans ce domaine-là, je n'ai pas travaillé.
Vous avez eu d'autres activités professionnelles ?
Oui, je suis chef d'emploi service universel.
Néanmoins, vous recherchez dans le domaine informatique.
À première vue, qu'est-ce que vous pensez de ce CV ?
Je connais la formation en fait, qu'a suivi ce monsieur parce que c'est l'école de reconversion professionnelle Maginot avec lequel on a une collaboration et une démarche de partenariat. Malheureusement, j'ai envie de dire, je ne suis pas très surprise que monsieur n'ait pas trouvé de poste depuis un an et quelques, depuis... qu'il est sorti de sa formation, puisque en informatique, on a très très peu d'offres au niveau bac. Et effectivement, monsieur a des compétences en informatique. Loin de moi, l'envie de le nier. Après, par rapport à nous, notre positionnement et nos métiers, on est en léger décalage. Merci, monsieur.
Merci.
Est-ce que Worldline emploie des personnes en situation de handicap actuellement ?
Oui.
Combien, je peux vous demander ?
Alors, au niveau France, c'est compliqué de vous donner ces comptages-là. Aujourd'hui, la société Worldline est à un taux d'emploi qui est un peu en deçà de 2%. Au niveau du groupe Atos, on est au-dessus de 2%. C'est un peu plus que la moyenne du secteur informatique qui est autour des 1%.
Pourtant, vous devriez être à 6%.
L'obligation d'emploi est effectivement à 6%. du fait de la structure et la nature de nos métiers, tout le secteur informatique est très pénurique par rapport à l'obligation d'emploi. C'est pour ça aussi qu'on se creuse aussi la tête pour essayer de trouver comment accompagner par la montée en qualification les personnes qui veulent venir vers nos métiers.
Vous allez recruter, d'après vous, aujourd'hui, suite à ce forum ?
Moi, je suis coordinatrice d'un programme, je ne suis pas décisionnaire de recrutement, ce sont les services opérationnels qui décident des recrutements. Moi, je rencontre des candidats, j'essaie de comprendre leur profil, leurs besoins, leurs attentes.
Vous venez chaque année à ce forum ?
Oui, j'y vais chaque année, puis sur d'autres forums, on fait pas loin de 15 ou 20 forums sur toute la France par an.
Mais vous devez savoir si, suite au forum, il y a des embauches.
Oui, sur ce forum-là, oui, on a rencontré, sur les années antérieures, on a eu des recrutements de stagiaires.
Des stagiaires.
Et notamment des personnes aussi en contrat.
CDD ou CDI ?
Alors, CDD, sûr, parce que c'est récent. Sur les années antérieures, je n'étais pas moi la coordinatrice du programme, donc je ne peux pas vous dire.
Merci Lénora Krief pour ce reportage. Ce reportage, il évoque donc la situation des personnes handicapées dans le monde du travail. Charlotte de Villemorin, vous, c'est une situation que vous rencontrez dans votre travail, puisque vous êtes en fauteuil. Quelle réaction lorsque vous entendez ces propos ?
Beaucoup. Je ne sais pas vraiment par laquelle commencer. C'est vrai qu'en fait, moi, je ne voulais absolument pas me faire recruter pour mon handicap. Je ne voulais pas juste servir à remplir un quota. Je voulais être embauchée pour mes capacités. C'est sûr qu'une personne handicapée a des incapacités, mais elle a surtout des capacités. Et j'ai fait l'expérience d'une entreprise qui m'avait recrutée dans le cadre d'une mission handicap, justement, un peu pour remplir les quotas. En fait, je m'étais retrouvée avec un stage complètement fictif dans un placard où tout ce que je produisais était destiné à la poubelle. Je n'avais aucune utilité dans la société. On me demandait d'être là pour faire du présentéisme, en fait, et pas vraiment pour produire de la valeur, produire de la richesse. Ça m'avait beaucoup énervée. Du coup, je m'étais dit, jamais plus, quand je candidaterai pour un stage ou un emploi, je passerai par ce système-là. J'enverrai mon CV, comme tout le monde, sans faire aucune mention de mon handicap. Comme ça, je mettrai uniquement en avant mes capacités, mes succès, mes expériences précédentes. Et alors, évidemment, ça tient jusqu'au jour de la rencontre physique avec la personne, puisque mon handicap se voit. Mais ça marchait très bien. J'avais un très bon taux de retour positif. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui ne sont pas accessibles. Et c'était très frustrant pour moi de me voir refuser des postes parce que j'avais été sélectionnée dans une première étape parce que mon profil correspondait parfaitement à ce qu'ils cherchaient. J'avais les bonnes compétences, mais il y avait pas d'ascenseur, des marches partout. Donc, c'était pas possible.
Mireille Malot, vous travaillez pour que les personnes handicapées soient insérées dans le monde du travail. Quels obstacles rencontrez-vous ? Quelles évolutions notez-vous ? Puisqu'il y a peut-être des évolutions.
Oui, je pense que la meilleure évolution pour leur permettre d'accéder à l'emploi, c'est d'abord qu'ils puissent aller à l'école lorsqu'ils sont enfants, dans des conditions ordinaires, faire des études, aller au collège, passer le bac, et puis si possible aller à l'université. On sait qu'ils sont encore trop peu nombreux et c'est pour ça qu'il
y a plus de
20
ans... Si on en est
là,
ça veut dire que c'est quand même très problématique puisque par exemple, les facs américaines, dans les facs américaines, on observe beaucoup de gens en fauteuil roulant. Je ne pense pas qu'il y ait plus de gens en fauteuil roulant aux États-Unis qu'en France. Ça signifie juste que celles-ci sont pensées pour être accessibles.
Tout à fait. Et là, on a encore beaucoup de travail en France. Mais on a créé il y a plus de 20 ans à quelques-uns les auxiliaires de vie scolaire qui ont permis quand même à grand nombre de personnes, d'enfants, d'adolescents et d'adultes, d'accéder aux études, au savoir, de pouvoir au moins, pour certains, acquérir les bases, lire, écrire. On parlait d'enfants autistes tout à l'heure, on en a eu des tas qui ont passé le bac. Alors qu'il y a des années en arrière, c'était impossible. Donc, ça progresse lentement, mais ça progresse, et ça j'ai envie de le dire. Et la meilleure façon peut-être de le montrer, c'est lorsqu'on est adulte en situation de travail, venir faire un film, venir le montrer à Nîmes, le montrer aux décideurs économiques qui sont présents, aux gens du cinéma français, à tous ces gens-là, et à partir de là, on a des témoignages de ce qui existe, de ce qui est possible.
Ça, c'est ce que propose votre association. Nous avons Jean-Michel à Nanterre qui est au standard et qui veut nous poser une question. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous, merci de me permettre d'intervenir. Je souhaitais surtout parler de notre entreprise qui œuvre depuis plus de 2 ans pour la création d'activités et d'emplois en secteur adapté. Nous nous battons d'ailleurs depuis le premier jour pour être reconnue entreprise adaptée. Je suis très touché par le témoignage de votre invité qui est en situation de handicap. Et nous nous battons justement depuis plus de 2 ans pour améliorer l'image du handicap en entreprise. C'est d'ailleurs toute une difficulté pour les chefs d'entreprise comme moi qui répondent à une soif associative et entrepreneuriale, c'est d'accéder à des profils de personnes en situation de handicap, et ce, malgré le soutien naturel d'organismes comme la GFIP et le Cap Emploi. Nous avons encore beaucoup de mal à accéder à des profils de personnes handicapées, et on aimerait bien sûr changer le regard et la perception du handicap en entreprise. Ça fait 2 ans d'ailleurs que nous avons répondu à différents appels à projets pour devenir entreprise adaptée, sans succès malheureusement, car vous en doutez bien, il y a beaucoup d'appels mais peu d'élus. Et nous espérons cette année transformer l'essai pour accueillir encore plus d'emplois, encore plus d'activités et faire du handicap en entreprise une richesse et non une obligation légale.
Merci beaucoup pour ce témoignage Jean-Michel, un témoignage qui vous fait réagir Charles Gardou, parce que lorsqu'on parle de la question de la différence, et c'est une notion qui est un peu compliquée en France parce qu'on aimerait bien que les êtres humains soient universels, alors qu'en réalité, les êtres humains concrets, eux, ils ont chacun leur particularité.
Oui, ce qu'on entend dans les différents propos, c'est que derrière le singulier de la situation de handicap, il y a l'universel qui s'exprime. Et en fait, si on s'approche du monde du travail, on se dit quel est le désir de chacun d'entre nous, c'est de faire œuvre, d'être reconnu. Il ne suffit pas simplement de vivre ou de survivre dans une société par des réponses à des besoins spécifiques, mais chacun a le désir d'exister, c'est-à-dire de se réaliser et de se déployer. Et là, il y a quelque chose d'assez fondamental pour penser une société inclusive. Ce qui ne suffit pas de permettre à des gens de vivre par des réponses à des gens qui seraient des nécessiteux, mais il s'agit de leur donner les moyens de se réaliser pleinement. Je pourrais le formuler comme ça, on peut cesser d'exister avant d'avoir fini de vivre. Et c'est le cas de personnes précarisées dans nos sociétés, surfragilisées, des personnes du grand âge parfois. Et quand on va dans des structures adaptées, on se dit tout est fait pour que les gens vivent et survivent, mais en même temps, ils n'ont plus de raison d'exister. Et le travail est une raison d'exister, c'est-à-dire de se réaliser.
Charlotte de Villemorin, vous vouliez réagir parce que là aussi, le travail est évidemment une manière de se réaliser. C'est très compliqué d'imaginer une vie aujourd'hui sans travail. On voit mal comment pourrait se faire l'inclusion sociale, comment pourrait se faire tout simplement le vivre, puisque vivre coûte cher et d'autant plus cher qu'on est en fauteuil, comme vous l'expliquiez tout à l'heure. Et puis, Charlotte, quand on lit votre ouvrage, on se rend compte que lorsqu'on est employé comme personne handicapée dans une société, je dis comme personne handicapée parce que souvent, on sert de faire-valoir, comme par exemple, on bosse dans une entreprise de pub et que celle-ci a une campagne pour les personnes handicapées, ben, on est en quelque sorte le quota qu'on met en avant.
C'est ça. C'est vrai que j'ai vécu un peu l'hypocrisie du monde de l'entreprise de manière assez violente, où je pensais être là pour mes compétences parce que je faisais bien mon travail et je l'aimais, mon travail. Et c'est vrai que dès qu'on a besoin de montrer patte blanche, de se donner une bonne image d'entreprise très accueillante, très ouverte sur le handicap, etc., tout de suite, on se servait de moi en me mettant en avant, en me demandant de témoigner pour dire à quel point l'entreprise avait été formidable de m'accueillir, etc., même si ça n'avait pas été le cas, ça m'a beaucoup énervée.
C'est plus qu'énervant, c'est même assez révoltant, en tout cas quand on le dit dans votre ouvrage « Ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque », on est révolté. André est au standard. Bonjour André.
Bonjour, bonjour André Fertier, président de Sémaphore, et bonjour à toutes et tous.
Oui, nous vous écoutons.
La question des droits culturels, parce qu'en effet, comme l'évoquent les anthropologues, l'être humain ne peut se résumer à ses données biologiques, il est un être de culture. Alors on parle souvent pour les personnes handicapées de l'accès à l'emploi, de l'accès à la scolarité, mais qu'en est-il de l'accès à la vie culturelle, qui est pourtant le premier vecteur du vivre ensemble? Or, au niveau des politiques culturelles, ce que l'on constate, c'est que c'est plutôt une politique de ségrégation, d'apartheid. Et d'ailleurs, nous avons lancé un appel au Premier ministre qui s'appelle donc « Politique culturelle, apartheid ou vivre ensemble ». Et je vais quand même poser une question à France Inter. Est-ce que France Inter, vous imaginez un jour faire la promotion d'un atelier de musique dans un conservatoire qui regrouperait que des personnes noires ou que des personnes juives ou musulmanes? Ben, vous avez assuré vous-même la promotion d'un atelier qui regroupe que des personnes handicapées mentales, alors que c'est ni légal, ni éthique, ni légitime, puisque je connais une douzaine de personnes trisomiques qui peuvent être intégrées dans le cursus normal dans les conservatoires. Donc c'est pour montrer aussi qu'en termes de regard porté, je pense qu'on fait souvent une erreur. On regarde les personnes handicapées, mais on ne regarde pas ses propres responsabilités de chacun en tant que citoyen, y compris quand on est handicapé, mais aussi en tant que professionnel. Et au niveau des médias, je pense qu'il y a un souci. Par exemple, Michel Drucker, devant des millions de spectateurs, a laissé Bernadette Chirac, par exemple, dire « Les activités d'animation et de loisirs pour les personnes âgées ne peuvent pas être financées par la collectivité ». Ça n'est pas son rôle.
D'un autre côté, on ne peut pas répondre, sous prétexte qu'on est journaliste, à toutes les bêtises commises par d'autres journalistes. Vous voyez, vous dites qu'il ne faut pas globaliser la condition des personnes handicapées. On ne peut pas commencer à répondre pour ce qu'a fait Michel Drucker ou tel, André.
Non, mais par exemple, alors je vais poser une question plus simple. Ne serait-il pas quand même intéressant à un moment donné que France Inter fasse une émission consacrée aux politiques culturelles et non pas uniquement à des exemples d'expériences à droite à gauche concernant la question des droits culturels. Parce que, si vous voulez, à titre d'exemple, le Sénat a organisé le 6 mai dernier, la commission culture du Sénat a organisé une table ronde sur l'accès des personnes handicapées aux politiques à la culture. Aucun représentant du ministère de la Culture n'est venu, ce qui est quand même assez choquant. Ça prouve quand même un peu le mépris de certaines élites vis-à-vis justement des personnes dites vulnérables, des populations qui sont quand même environ 6 millions de personnes en France. Et aucun média n'a retransmis le fait, excepté le journal La Croix.
Bon, on a compris, en tout cas, André, que vous en vouliez effectivement aux médias et aux politiques, que vous trouvez que la reconnaissance de ces thèmes qui nous sont chers et qui l'ont toujours été pour service public. Donc là, je pense qu'à cet égard, l'émission a rempli son rôle. Charles Gardou, votre réaction?
Oui, la réaction au propos de Monsieur Fertige, on entend bien. En même temps, on peut considérer, dans la perspective aussi d'une société qui lutte contre toutes les formes d'exclusivité, que l'art, la culture font partie du patrimoine humain et social, donc chacun hérite par sa naissance même. Et je crois que la vision d'une société inclusive, c'est celle qui se dit, chacun, qu'il soit blessé ou non, quand advienne la vie ou plus tard, est héritier de ce que cette société a de plus noble et de meilleur, y compris dans le monde de l'art et de la culture. Et là où M. Fertier a raison, c'est quelquefois il y a une vision particulariste. C'est que les personnes en situation de handicap seraient des personnes qui ne vont vers l'art que pour se soigner. Donc, on maintient une vision d'art-thérapie. Non, ils veulent aussi être des créateurs, ils veulent aussi être des gens qui s'expriment par l'art. Et toute l'histoire des hommes est faite d'artistes qui ont transcendé leurs blessures pour arriver à des œuvres tout à fait remarquables qui ont marqué notre récit de l'humanité. Donc, c'est dans le patrimoine commun.
Charlotte de Villemorin, si vous deviez résumer le message que vous souhaitez faire passer au travers de ce livre, au travers de votre entreprise, Willys, où vous essayez donc de faciliter la vie, le transport des personnes handicapées qui ont des problèmes de mobilité, que diriez-vous ?
Que les personnes en situation de handicap peuvent être tout à fait capables et créer de la valeur. Jouer un vrai rôle, faire partie de la société pleinement en tant qu'acteur et ne pas perpétuer un modèle où on a un peu créé un circuit parallèle. Je pense que c'est aussi ce qui était un peu révoltant dans le propos de l'auditeur qui vient de nous appeler, c'est qu'on a un peu un effet ghetto du handicap où on parle des personnes handicapées. En fait, ça veut rien dire, c'est tellement des cas particuliers, des cas individuels que ça crée beaucoup d'amalgames qui sont, je pense, source d'un vrai poids pour la société, alors qu'on pourrait inverser ce poids pour créer quelque chose de positif si on se concentre vraiment sur les capacités.
Mireille Malot, votre point de vue?
Ben oui, je pense qu'elle a tout à fait raison. Les capacités créatrices de ces personnes existent, comme les nôtres. Certaines sont capables de faire de la bande dessinée, on le voit bien à travers les actions qu'on mène. Des choses remarquables, nous parler de leur vie, en bande, que ce soit en bande dessinée, en court-métrage, on a envie de crier, de dire très fort, le handicap n'empêche pas le talent. On a tous, à notre niveau, des talents cachés.
Parce que ça, a priori, personne n'en doute, y compris d'ailleurs les personnes qui vous employaient, Charlotte de Villemorin. C'est ça qu'il y a, enfin, c'est ça qui ressort de votre livre. D'un côté, vous dites les personnes en situation de handicap sont aussi capables que les personnes valides. On n'en doute pas un instant quand on discute avec vous, quand on vous lit. Et puis, à la fois, vous expliquez aussi qu'il faut penser à des choses auxquelles les personnes valides ne pensent pas nécessairement, le fait que s'il y a une marche, ben, celle-ci est infranchissable pour quelqu'un en fauteuil. Donc c'est ce balancement qui est un peu compliqué.
Mais oui, mais c'est compliqué parce que c'est ambigu. C'est ambigu pour tout le monde. C'est vrai qu'on ne peut pas nier la différence. Pourtant, c'est important de la dépasser. Et c'est surtout important de créer un environnement qui est favorable. Favorable à tout le monde parce que c'est l'obstacle qui crée le handicap. S'il n'y a plus d'obstacle, il n'y a plus vraiment de handicap.
Charles Gardou.
Oui, je crois qu'il nous faut changer de concept. Quand on parle d'intégration ou d'inclusion, on imagine qu'une personne est à l'extérieur, c'est-à-dire une personne en situation de handicap, et qu'il s'agit de la mettre dedans. En fait, c'est là aussi une distorsion de la pensée. Je crois que la société est à concevoir comme un chez-soi pour tous, mais à condition de l'accommoder, d'y installer des plans inclinés, professionnels, éducatifs, culturels, artistiques, pour que cette maison, qui est un patrimoine indivis, soit réellement la maison de chacun. Il ne s'agit pas de mettre dedans, parce que dans une société, il n'y a pas de débiteur, il n'y a pas de créancier, il n'y a pas de droit d'entrée à payer. Donc, on a à reconsidérer notre manière de considérer cette réalité humaine.
Merci à tous les quatre d'avoir été là ce matin. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Charlotte de Villemorin, ne dites pas à ma mère que je suis handicapée, elle me croit trapéziste dans un cirque aux éditions Grasset. Charles Gardou, la société inclusive, parlons-en, il n'y a pas de vie minuscule. Et l'association Hippocampe Mireille Malo qui organise le festival Regards Croisés. C'est la 7e édition de ce festival, les premiers 2 octobre prochains à Nîmes. Merci d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir évoqué les difficultés, les complexités du mode de vie des personnes handicapées aujourd'hui en France.